Merci d'écouter RFI, les midi à Paris, 11h temps universel. Anne Cantner, je vous cède le micro, bonjour.
Bonjour Chantal Leroux, bonjour à tous. C'est RFI Midi qui commence le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et l'Ukraine à la une ce mardi 24 février. L'Ukraine en guerre depuis 4 ans, envahie par la Russie qui gagne du terrain lentement mais sans interruption dans l'Est, qui bombarde quotidiennement et aujourd'hui dans les zones proches du front, la plupart des habitants refusent toujours catégoriquement de céder quoi que ce soit, pas le moindre territoire à la Russie.
Qu'ils aillent se faire foutre. Jamais, jamais on cédera. Si vous donnez un doigt aux Russes, ils vous prendront le bras.
Si vous leur donnez le Donbass aux Russes, après ils demanderont Kherson, Odessa, Mykolaiv et d'autres villes. On ne peut pas arrêter la guerre en leur donnant des territoires. Les Russes ne sont pas le genre de personnes avec qui on négocie. Par le passé, il y a eu le mémorandum de Budapest. On leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'on a maintenant ? Rien.
La détermination de nombreux, très nombreux Ukrainiens, mais il y a aussi ceux qui n'en peuvent plus de la guerre.
Je ne sais pas pourquoi ils ne s'assoient pas à la table des négociations. Ils doivent trouver un accord. La moitié de ma famille vit en Russie, des gens simples, pas politisés. On se préoccupe les uns des autres. Pourquoi tous ces morts ? Je m'en fiche qui doit avoir le Donbass. Qu'il y ait la paix, c'est tout.
Reportage de nos envoyés spéciaux à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, à écouter dans une demi-heure. Toute notre demi-heure européenne sera consacrée à la situation dans le pays, au quotidien, sous les drones, les bombes et la menace. On y revient aussi dans un instant dans le journal, et puis avec le député français Frédéric Petit qui est à Kiev aujourd'hui. Il sera en ligne avec nous dans une dizaine de minutes.
RFI Midi.
Au sommaire également, l'ambassadeur des États-Unis à Paris qui n'a plus accès au gouvernement français. C'est la réponse à son absence hier alors qu'il était convoqué au Quai d'Orsay. Les autorités n'avaient pas apprécié ses commentaires sur la mort d'un militant d'un groupe fasciste, Quentin Derenck. La diplomatie américaine faite d'ingérence et de provocation, on en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Et puis on évoquera aussi une autre politique étrangère, celle d'Israël. Son président est en Éthiopie en ce moment et on essaiera de comprendre ce qu'il y cherche dans Afrique Midi, à midi et demi temps universel. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Alors que le conflit ukrainien entre donc dans sa cinquième année aujourd'hui, les frappes russes continuent.
Oui, 5 blessés, dont un enfant ce matin à Zaporijja, visé par des drones. La grande ville industrielle proche de la ligne de front dans le sud, Zaporijja, donc subit presque chaque jour les attaques de drones et de missiles russes. La guerre donc entre dans sa cinquième année, même si aucun bilan précis n'est disponible. Elle est déjà considérée comme la plus sanglante en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les morts civiles se compteraient par dizaines de milliers et les militaires par centaines de milliers. Le Kremlin a reconnu ce matin que beaucoup de ses objectifs n'avaient pas encore été atteints. Quant au président Macron, le président français souligne le triple échec de la Russie sur les plans militaires, économiques et stratégiques. Cet anniversaire est marqué par plusieurs cérémonies sur place en Ukraine et aussi par le soutien des dirigeants européens, dont certains ont fait le déplacement. Daniel Valot, bonjour.
Bonjour.
Présent à Kiev aujourd'hui, Antonio Costa, le président du Conseil, et Ursula von der Leyen, qui elle préside la commission.
Oui, et ils ont déposé ce matin une gerbe sur la place Maïdan, point de départ de la révolution du même nom en 2014. Ils ont également assisté à un service religieux à la mémoire des victimes civiles et militaires du conflit. C'est la 10e fois depuis le début de la guerre qu'Ursula von der Leyen se rend à Kiev, et ce matin sur les réseaux sociaux, elle a réaffirmé, je cite, le soutien indéfectible apporté par l'Europe à l'Ukraine, soutien financier et militaire. Nous ne céderons pas tant que la paix ne sera pas rétablie. Fin de citation.
Des dirigeants européens qui cependant arrivent les mains vides à Kiev.
En effet, puisqu'en raison du veto posé ce lundi par la Hongrie, le nouveau paquet de sanctions contre la Russie et surtout le prêt de 90 milliards d'euros promis à l'Ukraine n'ont pu être adoptés comme les dirigeants européens auraient souhaité le faire à l'occasion de ce 4e anniversaire. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs déploré ce blocage à l'occasion de ce triste anniversaire. Rien ne justifie de remettre ce prêt en cause. Nous devons désormais mais le concrétiser, a déclaré sur les réseaux sociaux le président français Emmanuel Macron, qui organise ce mardi en visioconférence une réunion de la coalition des volontaires avec le premier ministre britannique Keir Starmer notamment. Façon là encore de marquer le soutien des dirigeants européens à l'Ukraine face à l'agression militaire de la Russie.
Daniel Valot en direct dans ce journal. Merci à vous, les 4 ans de guerre en Ukraine. À suivre, un rendez-vous spécial avec Anne Cantner dans RFI Midi. En Iran, le régime tend la main prudemment en direction des des étudiants. Ils ont naturellement le droit de manifester, mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Déclaration ce matin de la porte-parole du gouvernement iranien. Elle a cité en exemple les lieux sacrés ainsi que le drapeau de la République islamique. Cette déclaration est la première des autorités depuis la reprise samedi dernier d'un mouvement de contestation dans certaines universités iraniennes. Côté diplomatie aussi, le fil n'est pas rompu entre Iraniens et Américains. Steve Witkoff et Jared Kushner ont rendez-vous jeudi à Genève avec une délégation iranienne. Ils sont 20 pays à condamner l'annexion de facto de la Cisjordanie occupée. Du Brésil à l'Arabie Saoudite, en passant par la France, les diplomaties de ces pays ont signé une déclaration conjointe. Oriane Verdier nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour.
Le texte condamne, Oriane, une étape de plus dans la stratégie à long terme d'Israël.
Oui, Israël occupe en fait la Cisjordanie depuis 1967. Dans les années 90, les accords d'Oslo avaient amorcé leur retrait d'une certaine partie du territoire. Un accord temporaire visant a trouvé une solution pérenne. Mais elle n'a pas été trouvée. Bien au contraire, Israël renforce son contrôle sur le terrain. Entre présence militaire et nouvelles colonies, un maillage s'est imposé sur la Cisjordanie, allant jusqu'à empêcher les Palestiniens de se déplacer. Parallèlement au gouvernement israélien, des mesures sont progressivement prises pour transformer cette situation en réalité. Ainsi, une semaine après avoir approuvé un texte facilitant les achats de terres cisjordaniennes, le gouvernement a décidé il y a une semaine d'accélérer le processus d'enregistrement foncier en Cisjordanie. Cela permettrait d'exproprier définitivement des Palestiniens. La semaine dernière, déjà 85 États membres des Nations Unies avaient dénoncé ces mesures. Il y a un an et demi, suite à un avis de la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale des Nations Unies avait donné jusqu'à septembre 2025 à Israël pour mettre fin à son occupation illégale sur le territoire palestinien. Mais aucune mesure effective n'a été prévue pour faire respecter cette décision. Sur le terrain, les violences et la colonisation s'intensifient.
Oriane Verdier, merci à vous. L'ambassadeur américain en poste à Paris n'a plus l'accès direct au gouvernement français. Paris a décidé de révoquer cet accès. Ce diplomate, Charles Kushner, ayant ignoré une convocation du Quai d'Orsay, l'affaire a éclaté suite à des commentaires de l'administration Trump sur la mort d'un étudiant d'extrême droite la semaine dernière en France. Donald Trump attendu ce soir au Congrès des États-Unis où il prononcera le traditionnel discours sur l'état de l'Union. Le contexte est délicat. Plusieurs facteurs ont fait chuter sa cote de popularité. En cette année d'élection, à commencer par le coût élevé de la vie. Vers un retour au calme au Mexique, pas moins de 10 000 soldats ont été déployés pour mettre fin aux violences du plus puissant cartel du pays, le cartel Jalisco Nouvelle Génération. Ces violences ont été déclenchées par la mort de son chef El Mencho dimanche dans une opération militaire. Bilan, au moins 25 morts parmi les forces de l'ordre et 30 du côté du cartel, d'après le gouvernement mexicain. Justine Fontaine, c'est une opération à haut risque politique pour la présidente de gauche, Claudia Sheinbaum.
Premier risque, la présidente mexicaine ne sait pas jusqu'où iront les représailles du cartel. Autre danger, la mort de Nemesio Oseguera, surnommé El Mencho, pourrait fragmenter l'organisation et même provoquer plus de violence entre narcotrafiquants et contre les habitants. Enfin, le gouvernement mexicain peut être accusé d'avoir agi sous pression des États-Unis, qui avait fixé à 15 millions de dollars la récompense pour la capture de ce trafiquant de fentanyl, l'un des plus importants du continent. Claudia Sheinbaum a assuré ce lundi qu'aucun militaire états-unien n'accompagnait les soldats mexicains lors de l'opération.
Les forces américaines n'ont pas participé à l'opération. Ce qu'il y a eu, c'est un échange de renseignements avec les États-Unis. Le gouvernement américain nous a fourni des informations. Mais toute l'opération, y compris sa planification dès le départ, a été menée par les forces fédérales mexicaines sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale.
Avant elle, l'ancien président López Obrador promettait des câlins plutôt que des balles pour lutter contre l'insécurité. Cette politique a été un échec. Alors la nouvelle présidente, élue en 2024, cherche à s'en démarquer. Elle a misé davantage sur le renseignement et sur la coordination entre les forces de sécurité du pays. Mais malgré la mort d'El Mencho, le chemin sera encore long avant que l'État reprenne le contrôle de tout le territoire.
Merci Justine Fontaine. Les relations continuent de se tendre entre la Chine et le Japon. Dernière illustration, Pékin annonce sa volonté de sévir contre 40 entités japonaises, notamment des entreprises liées au secteur de la défense. Pékin dénonce la remilitarisation du Japon. Réaction de ce dernier, le point des mesures, je cite, inacceptable et profondément regrettable. L'armée thaïlandaise annonce avoir échangé des tirs avec les forces cambodgiennes le long de leurs frontières.
was not there, I won't be there, I'm only here. Memories are now, I can carry this weight, I can stand up tall, look you in the eye. You haven't broken me yet, you don't scare me to death, you don't scare me at all, though you try. I've lived enough life, I've earned my stripes, with my knife in the ground, this is mine, clear the way.
participatif.
Cette radio associative s'est rendue indispensable.
C'est vraiment la radio moderne qui apporte quelque chose.
C'est une radio libre.
Une radio libre.
À Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principactif.net.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
You saints and you sinners, experts and beginners, blind beggars and one-eyed kings, all fly on something. Bring me my potion, my ruby red ocean. I'm out here floating, darkness approaching. Bomb me with your bill and your face of stone. Is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spin with your drunken stars. I'm falling back, I'm falling back into your arms.
Masharabi, sharabi, masharabi, sharabi, masharabi, sharabi, masharabi, sharabi, masharabi, sharabi, masharabi.
Cold, froid, poignée dans la glace.